VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 3 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En République démocratique du Congo, un partisan de l'UDPS a été abattu par un militaire, annonce un militant du parti d'opposition.
En Mauritanie, 5 jeunes membres d'un mouvement d'opposition ont été condamnés hier à Nouakchott pour violence et agression.
En Afrique du Sud, l'ANC pourrait essuyer des défaites cuisantes dans les municipales d'aujourd'hui, pour la première fois depuis la fin de l'apartheid.
En Libye, les forces pro-gouvernementales progressent dans le centre de Sirte, resserrant ainsi l'étau autour des djihadistes, cibles de nouvelles frappes américaines.
Ici, aux États-Unis, le président Barack Obama déclare sans ambages que le républicain Donald Trump n'est pas qualifié pour être président.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal.
Des heurts à Kinshasa hier après la mort d'un opposant tué par un militaire. Des détails avec Eddy Isango.
L'opposant Étienne Tshisekedi recevait l'envoyé spécial américain Thomas Perriello à Limete à Kinshasa. Son parti, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, a indiqué qu'un de ses partisans a été tué par balle. Mon collègue Gimpiana a été tué par un militaire de l'armée parce qu'il portait un t-shirt à l'effigie du président Tshisekedi, a déclaré Justin Kabongo, militant de l'UDPS. Le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, a indiqué de son côté qu'un militaire avait tiré sur un motard. Des incidents ont suivi entre partisans de l'UDPS et forces de l'ordre. Les militants de l'UDPS ont résisté lorsque la police est intervenue pour rétablir l'ordre. Mais le calme a été imposé en début de soirée. Rien n'a filtré des discussions entre l'émissaire américain et l'opposant historique.
Cinq jeunes membres d'un mouvement d'opposition de Mauritanie ont été condamnés hier à Nouakchott pour violence et agression à raison de leur protestation véhémente contre la peine de prison infligée à l'un de leurs camarades de mi-juillet. Les précisions de Jacques Aristide.
Sur les 7 prévenus qui ont comparu mardi, selon Maître Oulde Betty, 3 ont été condamnés à 2 ans de prison ferme pour violence en salle d'audience, 2 ont écopé de 2 ans de prison avec sursis pour agression et 2 ont été acquittés par le tribunal. L'avocat dénonce un procès très politisé et promet de faire appel. Les 7 jeunes sont tous membres du mouvement du 25 février, né dans le sillage du printemps arabe opposé au président Mohamed Ould Abdelaziz. Ils avaient été arrêtés pour avoir manifesté leur colère contre la condamnation d'un des leurs, Sheikh Bai Ould Mohamed, par ailleurs journaliste. Il avait été appréhendé pour avoir lancé le 30 juin sa chaussure sur le ministre porte-parole du gouvernement Mohamed Lemine Ould Sheikh, sans l'atteindre, le qualifiant de ministre du mensonge. Il a été jugé et condamné le 14 juillet à 3 ans de prison ferme. 5 jeunes ont été arrêtés après l'annonce de la sentence. Ils avaient jeté leurs chaussures par terre et hué le juge. 2 autres ont été appréhendés pour avoir fait irruption 3 jours plus tard sur le plateau d'une émission de la télévision publique pour réclamer leur libération.
Le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, a exigé hier l'annulation de l'augmentation des tarifs de l'électricité qui ont entraîné de violentes manifestations dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Le point avec Nani Talani.
Le Front populaire ivoirien exige l'annulation pure et simple de l'augmentation du prix de l'électricité, dénonçant une mesure inique et menace de porter plainte contre le gouvernement Ouattara pour harcèlement économique et abus de position. Le ministère de l'Énergie avait annoncé une hausse de 6 à 10% des tarifs de l'électricité et beaucoup d'abonnés ont vu leurs factures exploser. Jean-Baptiste Kofi, président de l'Union des consommateurs, a demandé aux autorités de renoncer à ce projet qui ne fait qu'exacerber les difficultés des Ivoiriens. Fin juillet, des manifestations ont dégénéré en violence et pillage qui ont fait 1 mort et 10 dizaines de blessés. Bruno Koné, porte-parole du gouvernement, a indiqué que l'État subventionne l'électricité à hauteur de 60 à 80 milliards de francs CFA par an. Sans cela, l'électricité coûterait plus cher.
En Afrique du Sud, l'opposition pourrait remporter plusieurs grandes villes lors des municipales d'aujourd'hui. 26 millions d'électeurs sont appelés aux urnes, un scénario inédit qui menace le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994. Trois villes sont au centre de toutes les attentions, la capitale Pretoria, le hub économique Johannesburg et Port Elizabeth, cité industrielle du bord de l'océan Indien.
En Libye, les forces pro-gouvernementales progressaient hier dans le centre de Sirte, principal fief du groupe État islamique dans le pays. L'étau se resserre ainsi autour des djihadistes, cibles de nouvelles frappes américaines. Selon le Pentagone, les États-Unis ont mené 7 frappes jusqu'à présent, 5 lundi et 2 mardi, assurant que des combattants du groupe État islamique avaient été tués, mais sans en préciser le nombre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle américaine de 2016, Barack Obama a critiqué hier, avec une virulence rare, le candidat républicain Donald Trump, avertissant que ce dernier était terriblement mal préparé pour devenir président des États-Unis, et M. Obama a appelé les dirigeants républicains à lui retirer leur soutien. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Le candidat républicain n'est pas qualifié pour être président, a lancé Barack Obama lors d'une conférence de presse à Washington. Je l'ai dit la semaine dernière, il n'arrête pas de le démontrer, a martelé le président américain, rappelant les propos controversés de Donald Trump concernant les parents d'un capitaine américain musulman mort au combat, invité à la convention d'investiture de Hillary Clinton la semaine dernière. En réaction, M. Trump a qualifié M. Obama de peut-être le pire président des États-Unis. Il a par ailleurs déclaré hier qu'il n'était pas prêt à soutenir le sénateur de l'Arizona, John McCain, candidat à sa réélection en novembre. Même chose pour Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants qui cherche à conserver son poste dans le Wisconsin. Les deux leaders républicains l'avaient critiqué après ses propos sur la famille du soldat musulman américain. En revanche, le républicain Richard Hanna, élu à la Chambre des représentants, est devenu hier le premier membre de son parti siégeant au Congrès des États-Unis à annoncer son intention de voter pour la démocrate Hillary Clinton. Selon M. Hanna, Donald Trump n'est pas l'homme capable de servir son parti et ne peut pas diriger ce pays.
En Syrie, l'aviation russe qui soutient les forces du régime syrien a freiné par d'intenses raids au sud d'Alep l'offensive des rebelles qui cherchent à desserrer le siège imposé à leur quartier. Ce pilonnage s'est doublé, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, du largage de barils explosifs du régime mardi sur la ville rebelle de Sarakeb, à 50 km au sud d'Alep, qui ont engendré 24 cas de suffocation, selon la même source. Selon des habitants et les rebelles, il s'agissait de chlore, ce qui a ravivé le spectre de l'utilisation de gaz toxiques dans ce conflit qui a tué plus de 280 000 personnes depuis 2011.
En Turquie, le président Erdogan a lancé son attaque la plus virulente contre l'Occident depuis la tentative de coup d'État ratée en Turquie. Malheureusement, l'Occident soutient le terrorisme et se range aux côtés des putschistes, a déclaré le président turc dans un discours à Ankara, en réponse aux critiques des États-Unis et de l'Europe sur l'ampleur des purges après le putsch avorté du 15 juillet.
Au Brésil, c'est la phase finale de procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, alors que l'ouverture des Jeux olympiques de Rio aura lieu dans 48 heures. Anastasie Tudiech.
Le sénateur d'opposition Antonio Anastasia a commencé hier la présentation de son rapport devant la commission spéciale de 21 sénateurs qui juge l'accusation contre Dilma Rousseff, la présidente suspendue en mai dernier. Cette commission votera jeudi et une majorité simple est requise pour poursuivre la procédure. Les débats en plénière du Sénat pour le vote final de la destitution commenceront le 29 août. Au moins 54 des 81 sénateurs sont ouvertement pour sa mise à l'écart. Dilma Rousseff a travaillé dur pour décrocher les Jeux olympiques à Rio de Janeiro du 5 au 21 août. Mais ironie du sort, c'est au président par intérim Michel Temer qu'il reviendra de donner le coup d'envoi. Monsieur Temer se dit prêt à se faire huer au stade de Maracana où il va assister au match Brésil-Afrique du Sud. Neymar aura la mission de donner au pays du football sa première médaille d'or olympique.
Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Minute Éco avec John Linden.
Orange va lancer un programme d'électrification rurale en Afrique. Dans un communiqué, le géant des télécoms annonce qu'il proposera une solution à prix abordable. Concrètement, Orange fournira des kits solaires individuels ou des mini-réseaux électriques aux communautés rurales afin qu'elles puissent exploiter l'énergie solaire. Orange note qu'environ 500 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. L'aide publique de la Chine envers l'Afrique a baissé au profit d'une hausse des échanges commerciaux. Une baisse saluée par les dirigeants chinois et africains réunis à Beijing lors du récent forum Chine-Afrique. Le montant des investissements directs et de prêts commerciaux signés depuis décembre dernier par la Chine en Afrique s'élève à 46 milliards de dollars. Moody's vient de dégrader la note du Congo. Cette note, selon l'agence de notation basée à New York, passe donc de B2 à B3. Cette décision intervient après un défaut de paiement intervenu le 30 juin. Du côté de Brazzaville, le gouvernement parle plutôt d'une erreur administrative et non d'un problème de liquidité.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
J-2 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio et on parle toujours de dopage.
Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui appelle à une révision totale du système de lutte antidopage à 2 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Le CIO souhaite un système de lutte antidopage plus robuste, plus efficace et offrant plus de transparence, a encore déclaré M. Bach, alors que l'incertitude plane encore sur le nombre d'athlètes russes admis à participer à la suite d'un rapport évoquant un dopage d'État en Russie.
En tennis, coup dur pour la Suisse.
Stan Wawrinka, numéro 4 mondial, a déclaré forfait hier pour les Jeux Olympiques sur blessure. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Suisse de tennis. Un retrait qui prive son pays de ses 2 meilleures chances de médaille après celui de Roger Federer. On rappelle Idrissa que Wawrinka a remporté l'Open d'Australie en 2014 et Roland-Garros l'année dernière.
En football, les joueuses africaines débutent ce mercredi le tournoi olympique.
La première journée, c'est ce mercredi à Rio, Suède, Afrique du Sud et Brésil-Chine, Australie, Canada et Zimbabwe-Allemagne à Sao Paulo et à Belo Horizonte, États-Unis, Nouvelle-Zélande et France-Colombie.
Info transfert.
Le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gueye s'est engagé avec Everton pour 4 saisons et 8,4 millions d'euros. Le joueur de 26 ans, qui arrive en provenance d'Aston Villa, relégué en deuxième division, va apporter de la qualité au milieu de terrain. C'est félicité Ronald Koeman, le nouvel entraîneur des Toffees.
Messi, de retour en sélection argentine.
Le nouveau sélectionneur argentin, Edgardo Bausa, s'est dit optimiste sur les chances d'une volte-face de Lionel Messi, qui a décidé de ne plus jouer pour l'Albi Céleste après la défaite en finale de la Copa América. Bausa, âgé de 58 ans, vainqueur de 2 Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique latine, était jusqu'à lundi l'entraîneur du Sao Paulo FC.
Dans Washington Forum cette semaine, le retour en RDC d'Étienne Tshisekedi. L'opposant historique a tenu son premier discours devant des dizaines de milliers de ses partisans. Parallèlement, la bataille sur le calendrier électoral avec le gouvernement se poursuit. Avec Étienne Tshisekedi à Kinshasa, l'opposition va-t-elle être unie? À quel dialogue s'attendre fin novembre avec le gouvernement de Joseph Kabila? Quid des procédures judiciaires contre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et je vous retrouve dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Mauritanie, 13 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, vont comparaître ce mercredi. Ils ont été arrêtés entre le 30 juin et le 9 juillet à Nouakchott et Amnesty International exige leur libération immédiate. Anastasie Toudiech a joint à Dakar Kine Fatim, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.
Ils ont été arrêtés à la suite d'une manifestation qui a eu lieu dans un des quartiers périphériques de Nouakchott. C'était un squat qui était occupé par des familles à majorité d'origine haratine, donc des descendants d'esclaves qui vivaient dans cet espace depuis plusieurs années. À la suite d'un déclarissement de ces populations à la veille du sommet de la Ligue arabe, ces populations ont entrepris une manifestation pour résister un peu à leur déclarissement. Le lendemain de ces échauffourées entre les forces de l'ordre et les habitants de ce squat, les militants de l'IRA ont été arrêtés.
Que leur est-il reproché exactement ?
Rébellion, d'usage de la violence, d'attaque contre les pouvoirs publics, d'attroupement armé et d'appartenance à une organisation non reconnue. Et ça, c'est pour les 13 militants de l'IRA. Et c'est vraiment une constante parce que ces dernières années, à chaque fois qu'un militant de l'IRA est arrêté dans le cadre de l'expression de sa liberté de manifestation ou d'association, ses membres sont accusés d'appartenance à une organisation non reconnue, tout simplement parce que l'IRA a demandé l'autorisation aux autorités mauritaniennes depuis 2008. Et depuis cette date, ils n'ont pas reçu l'autorisation.
Que risquent les 13 membres de l'IRA s'ils sont reconnus coupables ?
Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison et une amende assez forte. Ce sont vraiment des leaders de l'organisation qui avaient des postes clés et qui ont été détenus pendant 12 jours dans un lieu secret, sans pour autant avoir accès à un avocat, ni même voir un membre de leur famille.
Comment réagit la population ?
Ils ont la solidarité des organisations de la société civile, des militants, et ils sont soutenus par ces personnes qui demandent, que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans la presse, qui demandent leur libération immédiate et sans condition.
Quels recours ont-ils s'ils sont reconnus coupables ?
Alors, si malheureusement, on espère vraiment que les autorités vont abandonner les charges contre ces personnes, mais si elles sont condamnées, le recours qu'ils ont, c'est de faire appel en espérant que la loi soit favorable à la liberté d'expression et d'association en Mauritanie.
Kine Fatim, chargée de campagne d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest. On reparle des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique. Au Cameroun, par exemple, ceux-ci devraient entrer en vigueur dans les prochains jours. S'exprimant à l'occasion de la conférence économique internationale qui s'est tenue à Yaoundé en mai dernier, Paul Kamogne Fokam, deuxième fortune d'Afrique subsaharienne francophone selon le magazine Forbes, avait suggéré au gouvernement camerounais de renforcer la coopération économique avec le Nigeria plutôt qu'avec l'Union européenne. Autant dire que ces accords au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, ne plaisent pas à tout le monde. John Linden s'est entretenu avec l'économiste et homme politique camerounais Célestin Bedzigui.
Il faut dire que jusque-là, les relations avec l'Union européenne étaient régies par ce qu'on appelait les accords APE, Afrique-Pacifique-Caraïbes. Aujourd'hui, les nouveaux APE mettent fin à ce paradigme-là et proposent qu'il y ait comme une réciprocité au sens où les pays, les produits des pays africains en Europe ne paieront pas la douane, mais également la grande majorité des produits des pays européens en Afrique ne paieront pas de douane. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas lieu de se féliciter de cela puisqu'il est évident que les économies européennes sont plus compétitives que les économies africaines et une telle confrontation fera qu'il n'y aura plus la moindre possibilité de développer des industries manufacturières africaines viables.
Et justement, dans ce cas-là, ça pénalise les économies africaines. Comment les pays africains réagissent-ils?
Les réactions sont différentes selon les profils des leaders, parce qu'il faut dire que, contrairement aux accords APE, l'AGOA est resté dans la logique que je venais de décrire, à savoir que les États-Unis, par exemple, facilitent l'entrée des produits africains sur le marché américain. C'est une approche qu'on peut dire développementaliste, alors que maintenant, la nouvelle approche qui est appliquée par l'Union européenne est une approche essentiellement mercantiliste. Elle est critiquée autant par les parlementaires européens que par les parlementaires américains. Alors, par rapport aux postures des pays africains, des pays tels que le Nigeria ont refusé de signer cet accord. D'ailleurs, le président Buhari est allé à l'Assemblée européenne pour le dire. En Afrique centrale, par exemple, dans le cas de la CEMAC, les 8 pays de la CEMAC, il y a que le Cameroun qui a signé l'accord intérimaire, lequel devra devenir définitif dans quelques jours, mais il n'a pas été suivi par les autres pays de la CEMAC. Mais lorsqu'on évalue les coûts-avantages de ces accords, on se rend compte que ce serait très, très préjudiciable au développement de la manufacture en Afrique, sans oublier la fragilité budgétaire qui s'en suivra.
Alors, comment rendre donc les économies africaines compétitives?
Dans les pays africains compétitifs, je suppose que ceux-ci ont déjà atteint, sur ce qu'on appelle leur courbe d'expérience, un niveau sous protection, un niveau tel qu'ils peuvent être compétitifs. Hein, et pour être compétitif, il faut investir, et on ne peut investir que si on a déjà, on arrive à réaliser un volume d'affaires et on accumule de l'expérience telle que ensuite vous pouvez aller sur les marchés internationaux.
L'économiste et homme politique camerounais Célestin Bedzigui.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Tchad, réélu à l'issue d'une élection jugée peu crédible par les 6 candidats de l'opposition, Idriss Déby Itno commence déjà à verrouiller son régime. Il nomme plusieurs membres de sa famille et ceux de son épouse à des postes clés, alors que ses candidats malheureux menacent de former un gouvernement parallèle d'ici le 8 août, date de son investiture. De N'Djamena, André Kodmadjingar.
En attendant son investiture le 8 août prochain pour un 5e mandat, Idriss Déby Itno persiste et confirme le caractère familial et tribal de son pouvoir. Il nomme 3 de ses fils à des postes de responsabilité stratégique à la présidence. Zakaria Idriss Déby, directeur adjoint de cabinet civil, Amira Idriss Déby, chef du protocole, et Mahamat Idriss Déby, chef du groupement numéro 1 de la DGCE, Direction Générale des Services de Sécurité des Institutions de l'État, sa garde prétorienne. Pour le président du Rassemblement patriotique du renouveau, parti politique de l'opposition, Mahamat Bar Béchir, le président Déby veut transformer le Tchad en monarchie clanique.
Déby considère le Tchad comme un butin de guerre pour sa famille, pour sa communauté. Et donc nous dénonçons ces népotismes qui cherchent à transformer ce pays-là en une monarchie clanique. Le Tchad est une république qui a des règles. Et on ne devrait pas accepter à ce qu'une seule famille puisse régner sur le pays de telle sorte, ne serait-ce que dans l'armée. 70% des généraux au Tchad sont de la communauté de Déby. Dans la police nationale, plus de 80% des contrôleurs généraux de police sont de la famille de Déby. Je pense que ces pratiques-là sont des pratiques antinationales qui sont en train de saper les fondements de la République.
Au lendemain de l'élection présidentielle contestée qu'il a confirmée dans son fauteuil, Idriss Déby Itno impose un de ses fils, Saïdi Idriss Déby, directeur général adjoint de la raffinerie de Diarmaya, à la sortie nord de N'Djamena. Ses gendres et ses neveux se partagent certaines régies financières. Daoud Hamid, le mari de sa fille aînée, prend la direction générale du trésor. Jamal Dirmi, un autre gendre, récupère la direction des douanes et des droits indirects, longtemps resté chasse-gardée de son jeune frère Salaï Déby Itno. Son neveu Ahmad Youssouf Itno vient d'être promu au poste du contrôleur des passagers et frais aériens à N'Djamena. Avec cette nouvelle fonction, Ahmad Youssouf Itno cumule celle du directeur des renseignements militaires. Commentaire de Barka Michel, président de l'Union des syndicats du Tchad.
Nous avons, il y a quelques années, publié une pétition pour dénoncer ces nominations basées sur le népotisme. D'ailleurs, regardez le préambule de notre constitution. La corruption, le népotisme, la concussion sont autant de mots qui doivent amener les gens à résister, à dire non à un tel régime. Mais le pouvoir ne peut pas être uniquement basé sur la famille nucléaire du président de la République. C'est même une exagération.
Contacté par VOA Afrique, les courtisans du parti au pouvoir refusent de se prononcer. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Le pape François vient de mettre en place une commission d'études spéciale sur le rôle des femmes diacres au début du christianisme. Les diacres catholiques sont tous des hommes pour le moment. Des observateurs voient dans la démarche du souverain pontife une ouverture potentiellement historique sur la place des femmes dans l'Église catholique. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint le journaliste Albert Mienzukuta de Radio Vatican.
Les diacres, à ne pas confondre avec les prêtres, sont des hommes catholiques qui sont d'ailleurs pour la plupart mariés, qui sont autorisés à prononcer l'homélie durant la messe, ce qu'on appelle le sermon. Ils peuvent célébrer les baptêmes, les mariages, les funérailles, mais pas dire la messe. Ça, c'est un rôle qui est dévolu exclusivement aux prêtres. Ils ne peuvent pas non plus confesser les fidèles.
Cette commission est-elle synonyme d'une démarche d'ouverture sur la place des femmes dans l'Église catholique?
Alors, il faut être prudent et ne pas aller vite en besogne. D'abord, il faut voir l'intitulé de la commission. C'est un groupe qui est appelé à réfléchir sur le rôle des femmes dans les premiers temps du christianisme. Donc, essayer de voir comment cela se passait. Et donc, de là, on peut déduire que les conclusions de cette commission sont appelées à être disséquées, tamisées et voir de quelle manière elles peuvent être rendues compatibles avec l'évolution de l'Église et de la société aujourd'hui. De cela peut sortir une chose, on aille au degré supérieur en disant voilà, les femmes peuvent être diaconesses. Sinon, garder le statu quo en disant il n'y a pas de grand dommage à faire évoluer cette situation. Mais ça, c'est le pape qui déciderait et c'est la commission qui le proposerait.
L'Église catholique, d'ailleurs, s'oppose toujours à l'ordination de femmes prêtres. Cette commission va-t-elle vraiment pouvoir recommander un début de changement?
Déjà, sa composition laisse à penser que finalement, il y aura certainement en son sein un débat contradictoire. Vous savez, elle se compose de 13 membres. Elle est guidée par un jésuite espagnol. Mais là-dedans, il y a 6 femmes et 6 hommes. Je suppose qu'on ne peut pas réunir une commission pour après aboutir à la conclusion que eh bien, finalement, tout va bien comme c'est. Il n'y a rien à changer.
Un prêtre rwandais fait également partie de la commission. L'Église catholique en Afrique est-elle divisée sur la question d'après vous?
Non, il n'y a pas eu de position claire et ferme sur ce point de vue. Vous savez, l'Afrique, il y a des thèmes sur lesquels elle est farouchement arc-boutée, tels par exemple les thèmes de la famille, la reconnaissance des unions homosexuelles, etc. Mais ici, pour l'ordination des femmes, cela ne pose pas de problème particulier ni à l'entendement, ni même à la pratique de l'Église. Dans les paroisses aujourd'hui, les femmes peuvent aussi bien distribuer la communion que les hommes, les femmes, les religieuses par exemple, mais aussi les laïcs. Et donc, je suppose que l'Afrique n'y verrait que du bien.
C'était de Rome notre confrère Albert Mienzukuta de Radio Vatican.
Dans Washington Forum cette semaine, le retour en RDC d'Étienne Tshisekedi. L'opposant historique a tenu son premier discours devant des dizaines de milliers de ses partisans. Parallèlement, la bataille sur le calendrier électoral avec le gouvernement se poursuit. Avec Étienne Tshisekedi à Kinshasa, l'opposition va-t-elle être unie? À quel dialogue s'attendre fin novembre avec le gouvernement de Joseph Kabila? Quid des procédures judiciaires contre Moïse Katumbi et Martin Fayoulou? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et je vous retrouve dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idriss Assidou Dia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.